je trouve absolument ridicule d'avoir changé la fin de Carmen. Ridicule.
Écrire, écrire, c'est une certaine façon de vouloir la liberté, notait Jean-Paul Sartre en 1948. Pour le philosophe, l'art était une aventure, oui, de la liberté. Toute œuvre digne de ce nom visait forcément l'émancipation. Sartre n'imaginait pas un seul instant qu'un roman important ou une belle pièce de théâtre puisse venir alimenter l'oppression. 70 ans plus tard, alors que le penseur existentialiste n'est plus guère à la mode, voilà au moins un point sur lequel nous demeurons, ou plutôt à propos duquel nous sommes redevenus sartriens. Que les artistes aient vocation à répandre la liberté, à lutter contre les préjugés communs, les aliénations ordinaires, il y a là désormais une certitude assez largement répandue. Le mouvement MeToo en particulier a relancé le débat sur la responsabilité des créatrices et des créateurs, sur leur façon d'envisager les rôles sexuels, tant et si bien que chaque œuvre, non seulement contemporaine mais aussi parfois très ancienne, se trouve passée au crible de cette vocation émancipatrice. Alors la culture peut-elle, la culture même doit-elle être féministe? Telle est donc la question que nous allons poser, cher Hervé Gardette, bonjour. Pour ce deuxième épisode des Rencontres de Pétrarque, avec aujourd'hui quatre intervenantes et quatre intervenants que je vous laisse nous présenter devant le public de ces rencontres, ici, dans la sublime cour du rectorat de Montpellier.
Voilà, j'en profite d'ailleurs aussi pour dire bonjour au public, toujours aussi nombreux dans cette cour du rectorat. Bonjour à toutes et à tous. Hommes-femmes des lendemains qui changent, donc c'est le thème de la semaine. Jean vous a expliqué un petit peu la thématique d'aujourd'hui. Et quatre invités, effectivement, pour en discuter. Geneviève Fraisse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, historienne de la pensée féministe. Vous avez publié, alors entre autres, je ne vais pas tous les citer, sinon ça va nous amener jusqu'à 18h, Les excès du genre, concept, image, nudité, c'était aux éditions Ligne en 2014. Il faudrait également citer Du consentement, bien entendu, qui est votre livre de 2007 au Seuil, que vous avez réédité, republié, c'était en 2017, dans une version, comment dire, augmentée, c'est comme ça qu'on dit dans le monde de l'édition.
Suivi d'un épilogue sur le refus de consentir.
Et puis le dernier en date, là aussi c'est une réédition, Le privilège de Simone de Beauvoir, dans la collection Folio Essai, et c'est chez Gallimard. Vous allez discuter aujourd'hui avec Florian Guettet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe également, chargé de cours aux universités de Lille 3 et Paris 8. Vous avez cette particularité d'être philosophe et critique d'art, vous intéressez en particulier aux arts plastiques et au spectacle vivant. Il vous arrive d'être conseiller en dramaturgie, curateur. Curateur, c'est la, si j'ose dire, la version contemporaine du commissaire d'exposition. Je sais que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais enfin, on va dire que, en résumé, on peut peut-être le présenter comme ça. Et puis, vous faites partie, bien sûr, les auditeurs de France Culture vous connaissent, des chroniqueurs de La Dispute d'Arnaud Laporte. On vous retrouve en général, en tout cas c'était le cas la saison dernière, le mercredi. Notre troisième invité, si vous étiez fidèle dès hier aux Rencontres de Pétrarque, vous le connaissez. Et puis pas seulement d'ailleurs, vous le connaissez autrement, c'est Jean-Pierre Le Goff, bonjour.
Bonjour.
Sociologue et philosophe, vous avez reçu hier, vous en êtes encore tout ému, le 7e prix Pétrarque de l'essai, La France d'hier, récit d'un monde adolescent des années 50 à mai 68. C'était chez Stock, mai 68, qui est une de vos passions d'écriture, puisqu'il y a une trentaine d'années, il y a 30 ans même, vous aviez publié chez La Découverte, mai 68, L'héritage impossible. Et puis, vous avez remarqué que j'ai cité seulement trois invités. Nous attendons la quatrième, qui a eu quelques soucis pour arriver jusqu'à nous avec son train. C'est Fatou Diome. Fatou Diome qui est écrivaine. Je la présenterai un petit peu plus, de manière un petit peu plus appropriée dès qu'elle arrivera. J'espère que ça n'est que une question de minutes. Alors, vous avez entendu dans le générique de l'émission d'aujourd'hui un très court extrait de l'intervention d'hier de Vassila Tamzali qui a prononcé la leçon inaugurale, et on a à peine effleuré cette nouvelle mise en scène qui avait été proposée l'hiver dernier, hein, c'est tout récent, de Carmen. C'était en Italie, au théâtre Maggio à Florence, mise en scène dans laquelle Carmen ne meurt pas à la fin, mais elle assassine Don José. Enfin, ça s'était pas si bien passé que ça, d'ailleurs, au tout début, puisque pour la première représentation, le coup de feu, puisqu'elle est censée le tuer avec son pistolet, le coup de feu n'était pas parti, ce qui était une forme d'acte manqué. Le metteur en scène avait justifié ce changement de fin en disant ceci: à notre époque, marquée par le fléau des violences faites aux femmes, il est inconcevable qu'on applaudisse le meurtre de l'une d'elles. Alors, il s'agit pas de faire de cette nouvelle mise en scène un exemple qui serait symptomatique d'une façon de revisiter toute la culture traditionnelle au regard notamment du mouvement MeToo, puisqu'on effectivement on était en plein dans ce mouvement-là. Mais moi j'aimerais savoir si c'est quelque chose, et je vais commencer par Florian Guettet, si c'est quelque chose qui vous paraît intéressant justement que de modifier une œuvre, un classique, au regard des évolutions de la société, et là en l'occurrence au regard de ce mouvement qui a été ce mouvement très important cette année, le mouvement MeToo.
Déjà, commencer par dire que c'est pas une nouveauté, que ça a été fait depuis dans toute l'histoire du théâtre, que d'essayer d'actualiser les choses, beaucoup plus dans le théâtre contemporain, et notamment dans les années 80, on se souvient de Peter Sellars, qui avait fait jouer un héros shakespearien par un homme noir, et à l'époque, ça avait déjà défrayé la chronique. La question, il me semble, c'est pas tellement de savoir si on peut réécrire les œuvres, mais qu'est-ce que ça vient dire sur l'échec aussi de notre regard de contemporain à ne pas savoir faire la différence ou de ne pas avoir un regard critique par rapport à des œuvres contextualisées. C'est-à-dire qu'une œuvre comme celle de Carmen, il me semble qu'il fallait moins la changer, elle, dans son contenu, que de changer le regard qu'on peut porter sur elle et d'accompagner ce regard-là. J'ai plutôt l'impression que c'est... une réécriture du regard qu'il faudrait proposer plutôt qu'une réécriture des œuvres en elles-mêmes.
Mais quand vous avez un accompagnement, ce serait quoi? Un accompagnement des spectateurs en leur faisant une petite leçon préalable pour leur dire attention, cette œuvre-là est particulièrement datée?
Ben certainement pas. Déjà, il faudrait commencer par faire la différence entre art et culture, en se disant que la culture, c'est effectivement créer ces formes de représentation commune, de valeurs communes, ou en tout cas de donner des outils critiques ou des outils interprétatifs pour les spectateurs, et ça c'est fait par tout un réseau qui passe par l'éducation, qui passe par la médiation, qui passe par les médias, enfin qui passe par tout ça. La culture, c'est tout ça, et ensuite il y a l'art, et l'art vient faire des propositions à l'intérieur de ça, et l'art doit être préservé de cette mission pédagogique. En revanche, la culture a peut-être un rôle à jouer là-dedans.
Geneviève Fraisse, est-ce que vous partagez cette approche qui est celle de Florian Guettet?
Je vais proposer peut-être une autre piste. D'abord juste un très rapide commentaire sur l'intitulé de la rencontre. La culture doit-elle être féministe? Ce devoir me choque. Parce que la question, c'est pas si de faire de la science prolétarienne, comme on disait jadis, ou de faire de la culture féministe, mais peut-être de savoir si, à l'inverse, le féminisme, ça serait pas de la culture. Moi, j'inverserais et la question, et j'enlèverais le mot devoir. Parce qu'au fond, je l'ai répété.
Alors attendez, ça donnerait quoi, du coup, comme question?
Ça donnerait quoi comme question?
Oui.
Peut-être qu'on poserait une autre question avec les exemples que je vais proposer, si vous voulez bien.
D'accord.
Alors, j'en ai deux exemples très rapides. D'une part, c'est-à-dire que sur l'idée que, bien sûr, l'art n'arrête pas de se réécrire. Enfin, toute l'histoire de l'art, c'est de la réécriture, que ce soit en peinture, en théâtre, etc. Je vais vous prendre deux exemples précis parce qu'on peut les commenter par rapport à Carmen. Frankenstein est écrit par Mary Shelley au début du 19e siècle et donnera lieu... un siècle plus tard, à un film en 1935 qui s'appelle La fiancée de Frankenstein. Or, Mary Shelley termine son texte avec le renoncement par le professeur de la construction de la fiancée demandée par le monstre. Donc, un siècle plus tard, un réalisateur décide de faire dire à Frankenstein et à Mary Shelley le contraire de ce qu'elle a voulu faire. Est-ce qu'on s'est horrifié de cela? Non. Pourquoi on s'est pas horrifié? Évidemment, dans l'inversion qu'il y a sur qui tire sur qui dans Carmen, là, avec la fiancée de Frankenstein, c'est beaucoup plus bon genre, hein. On va lui donner une femme. C'est quand même formidable. Donc, on voit bien que là, les enjeux de fond ne sont pas les mêmes. Je vais vite. Deuxième exemple. La pièce d'Angelica Liddell, You Are My Destiny, remonte à il y a 2, 3, 4 ans peut-être, que j'ai vu à l'Odéon, est une pièce sur Lucrèce. Qu'est-ce qu'elle fait? Dans sa pièce, Lucrèce ne se suicide pas après avoir été violée. Vous voyez que là, on rentre dans le vif du sujet quant à la violence entre femmes et hommes, ou hommes et femmes. Elle ne se suicide pas, et au fond, elle va inverser les choses Et comme ce qui est intéressant, c'est qu'Angelica Liddell va dire « j'ai pas voulu faire une pièce féministe ». Parce qu'elle va, les hommes deviennent multiples, mille et trait, le mille et trois, ce sont plus les femmes, ce sont les hommes dans sa pièce. Donc elle fait une série d'inversions et elle dit qu'elle s'intéresse à Tarquin et non pas à Lucrèce. Donc en s'intéressant à Tarquin et non pas à Lucrèce, néanmoins elle montre une Lucrèce vivante qui ne s'autodétruit pas après avoir été violée, c'est-à-dire, et du coup, on a là une inversion qui n'est pas une inversion volontaire du genre, ah, je vais vous raconter une autre histoire parce que le féminisme est basé par là, mais simplement qui permet un autre regard. Là, je vous suivrai, mais de l'intérieur même de l'écriture des textes. Donc, ça, c'est deux petits exemples pour dire que si on change des histoires très connues, violentes, Lucrèce, Frankenstein, on change les histoires et quel fond il y a dans ces changements, parce que ça nous ferait revenir à Carmen. Carmen, ce qui n'est pas acceptable, c'est que c'est une histoire de meurtre entre un homme et une femme. C'est pas le fait qu'on change la fin de l'histoire. Donc, la question que je vais vous poser, puisque vous me demandez d'en poser une, c'est de quelle transgression parle-t-on ? Si je prends l'exemple de Carmen, de Frankenstein et de Lucrèce, mis en scène par Angelica Liddell, de quelle transgression parle-t-on quant au geste final qui n'est plus le geste d'origine ou le geste du mythe tel qu'on le connaît ? J'ai encore quelques autres exemples, mais je les garde.
Pour un petit peu plus tard. Un peu plus tard.
Oui, c'est intéressant, parce que surtout que Florent Gaïté disait lui-même que c'est pas la première fois. Il y a eu un livre entier sur les mille et une versions, enfin les dizaines de versions différentes de Carmen, et même au début du XXe siècle, il y a eu plein de moments où la fin était changée, où tout était changé. Donc effectivement, c'est une question de relecture et de réinterprétation. Et en même temps, ça pose la question plus large, Jean-Pierre Le Goff, je me tourne vers vous, de cette question, de cet enjeu d'un art ou d'une culture ou de pièces de théâtre ou de romans qui porterait la vocation ou un combat féministe. Vous savez que Michèle Perrault, l'historienne que vous connaissez bien, dans un livre qui s'appelle Les femmes ou les silences de l'histoire, a eu cette très belle formule où d'ailleurs elle prend la métaphore du théâtre et la métaphore de la scène. Elle dit, je cite de mémoire, elle dit l'inégalité entre les hommes et les femmes, c'est pas seulement un partage inégal des tâches au quotidien, c'est aussi un partage inégal des traces dans l'histoire, vis-à-vis de la mémoire et de l'histoire. Et elle dit, je cite de mémoire, « Au théâtre de l'histoire, les femmes sont ombres légères. » Et pour Michèle Perrault, compenser, surmonter cette ombre légère, la subvertir et redonner aux femmes toute leur place, ça passe justement par la littérature et par l'art en général. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Le Goff ?
Je vais prendre le problème autrement. Je pense qu'il faut partir de ce que c'est que l'œuvre d'art et retrouver la question de la femme ensuite, si j'ose dire. D'abord, il y a deux conceptions de la culture. Il y a une conception anthropologique, classique, connue, c'est-à-dire un ensemble de représentations de valeurs plus ou moins intériorisées par un groupe social, avec des particularités. Là, on va rentrer dans la particularité. Mais ne confondons pas ce mot « culture » avec une autre conception de la culture, qui sont les œuvres. Et si je prenais... Alors là, ça dépend évidemment de la conception qu'on a de l'art, de la littérature. Je me distinguerai un peu de vous, parce que je pense que l'art et la littérature, ce n'est pas simplement la question du combat. C'est-à-dire, moi je vois ça un peu autrement, alors évidemment les références c'est plutôt Malraux, si vous voulez, avec une dimension un peu métaphysique, on peut discuter de cette conception. Mais ce qui m'intéresse dans une œuvre d'art, c'est pas regarder si elle est produite, on a connu d'ailleurs... l'art prolétarien à la bonne époque, après on peut trouver des tas... Anthropologiquement, c'est vrai qu'il y a des cultures différentes, mais ça fait pas une œuvre. Qu'est-ce qui fait l'œuvre ? C'est bien précisément, c'est que ça nous interpelle sur la condition, notre propre condition. Et bon, je vais pas citer Malraux à propos de la jeunesse et faire une analogie, mais quand Malraux, à propos de la jeunesse, disait « Mais la jeunesse, je suis absolument pour, mais en fin de compte, ce qu'il importe de savoir... » C'est si on met l'esprit au service de la jeunesse ou la jeunesse au service de l'esprit. Je dirais que c'est un peu la même chose pour les catégories. Et ce qu'il appelle l'esprit, c'est il parle d'invisibilité et de force de l'œuvre d'art qui perdure avec une dimension universelle. Pour moi, l'œuvre d'art, c'est ce qui nous interpelle. Et quand je regarde encore une fois un tableau, une pièce, quand j'écoute une musique, je me pose pas la question du sexe, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas à prendre en compte après pour expliquer l'œuvre. Mais le pouvoir d'interprétation d'une œuvre n'est pas dans la condition qui l'ont rendu possible le sujet. Alors je vais prendre par exemple Virginia Woolf, on peut dire, mais attendez, c'est vraiment de la littérature féministe. Oui, Mais ce qui m'intéresse aussi dans Virginia Noir, c'est que moi, je me sens aussi interpellé, figurez-vous. On dit, vous êtes un homme. Mais oui, mais il y a un style particulier, il y a une singularité de l'œuvre. Et quand je regarde Anna Arendt, je me pose pas la question si elle est une femme. Je sais qu'elle est une femme, mais quand elle part de la condition humaine, elle s'adresse aux hommes comme aux femmes. Et il y a une singularité du créateur et en même temps une visée pour l'universel. C'est pas, Anna Arendt représente pas les femmes. C'est Anna Arendt. Virginia Woolf, c'est Virginia Woolf, c'est-à-dire un individu créateur, qu'elle soit homme ou femme. Alors, cela étant dit, on peut revenir ensuite sur la question, revenir, mais après, pas avant.
Alors, merci Jean-Pierre Le Goff. Pendant que vous interveniez, Fatou Diome est arrivé. J'ai pas eu l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Donc voilà, ravi de vous accueillir. Fatou Diome, vous êtes écrivaine des romans.
Bonjour d'Alsace.
Des essais. Écrivaine, vous avez dit d'Alsace?
Oui, bonjour d'Alsace, guten Morgen, bisous.
Voilà, c'est pour ça que ça a été un petit peu long pour arriver jusqu'à Montpellier. Je vais citer quelques-uns des livres, notamment ceux qui vous ont fait connaître. Le ventre de l'Atlantique, ça remonte déjà à 2003, celles qui attendent en 2010. Et puis le tout dernier, c'est un essai, c'est dans la collection Café Voltaire chez Flammarion. Marianne porte plainte, c'était un sorte, je ne sais pas si on pourrait parler de pamphlet, mais enfin si, on y est, contre les défenseurs du débat sur l'identité nationale. C'est un livre que vous avez écrit et publié pendant la dernière campagne présidentielle. Marianne porte plainte. Alors, Fatou Diome, je ne vais pas être méchant, je ne vais pas vous demander de réagir à ce qui a été dit depuis le début de l'émission, parce que vous étiez en train d'arriver, mais je vais peut-être vous interpeller finalement sur le titre que nous avons choisi. La culture doit-elle être féministe? Parce que tout à l'heure, dans son intervention, Geneviève Fraisse nous a dit, moi, j'aurais pas du tout posé la question comme ça. Cette question même, elle me pose problème. Est-ce que vous, cette façon de la formuler, elle vous pose également problème. Et comment, en tout cas, est-ce que vous y répondriez?
Comme Voltaire est mon grand-père, je vous pose une autre question.
C'est la troisième aujourd'hui. Hein,
voilà. Que diriez-vous si l'on vous disait que la culture devait être machiste? Donc, tout le monde bondirait, évidemment. Donc, pour moi, la culture, elle n'a pas à être ou féministe ou machiste. Elle a à être humaniste, parce que si l'on défend vraiment les droits humains, ben ça rendrait peut-être le féminisme caduque. C'est un rêve, mais peut-être qu'on y arrivera un jour où on ne sera plus dans la confrontation, mais dans une forme de respect idéal, de complémentarité. Et c'est une amoureuse qui le dit.
Mais est-ce que ça veut dire que, pour vous, la culture n'est pas suffisamment humaniste aujourd'hui, ce qui expliquerait que le féminisme n'est pas encore rendu caduque?
Mais si toutes les associations féministes ont des raisons de se battre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui reste inaccompli. C'est parce que les femmes ne sont pas encore suffisamment considérées, suffisamment rétribuées, par exemple, pour une activité semblable à celle d'un homme, elles gagnent moins. Parce qu'on les met encore sur tutelle, et moi je viens d'Afrique. Donc je sais qu'encore il y a des femmes qui sont sous tutelle, même à 40 ans, 50 ans, tant qu'elles ne sont pas mariées. Du coup on passe de la tutelle du papa, puis de la tutelle du mari, et si le mari meurt, elles sont souvent sous la tutelle du fils qui gagne de quoi les faire vivre. Et du coup moi je pense toujours à l'autonomie économique qui doit compléter cette liberté que nous réclamons au niveau de la démocratie. Voilà. Donc je pense qu'il y a des raisons de se battre. Donc l'humanisme n'est pas encore tout à fait réalisé.
Alors Geneviève Fraisse, depuis hier, on tourne aussi on a autour des contradictions, voire des naïvetés d'un certain discours universaliste ou moderne. Et c'est vrai que la question que nous posons dans cette table ronde a un petit côté très naïf. Fatou Diome vient de le dire, la culture doit-elle être féministe? C'est assez curieux. Surtout que vous savez, puisqu'on parlait d'Afrique à l'instant, moi je me souviens d'un des très beaux livres de Jean Hatzfeld sur le génocide rwandais. Et dans ce livre, il y avait le témoignage d'un instituteur rwandais qui disait cette chose magnifique et assez troublante. Il disait, moi j'ai toujours lu les philosophes des Lumières, j'ai toujours enseigné les philosophes des Lumières, et ce que m'a appris le génocide auquel j'ai survécu, c'est que la culture, contrairement à ce que je croyais, elle ne rend pas meilleure, elle rend plus efficace dans la barbarie. Or, on a un mal fou à se débarrasser de cette idée et à s'extirper d'une représentation qui voudrait que la culture forcément devrait être justement humaniste, antiraciste ou féministe. Est-ce que du point de vue du combat féministe, aujourd'hui, il y a une prise de conscience du fait que la culture, en fait, a ses ambiguïtés, ses contradictions et ses failles propres ?
Alors là, je vais faire un petit pas de côté par rapport à ce que vous dites. Et cette citation d'Asveld est formidable, bien sûr. Mais le pas de côté que je ferais serait d'avoir à redire ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir le féminisme, ça pense. Le féminisme, ça pense, ça veut dire que c'est pas le réduire à un combat, le réduire à une guerre des sexes, le réduire à une idéologie. C'est-à-dire, que fait-on déjà de ce mot-là ? Donc, il faut déjà voir qu'il est, comme disait Léon Abinsourd au début du XXe siècle, un oncle lointain de Miguel Abinsourd, c'est un cas d'aspiration collective vers l'égalité. Donc, c'est le mot, c'est des principes égalité et liberté qui sont en jeu dans la question du féminisme. Est-ce que je peux prendre un nouvel exemple encore
donc peut-être on peut approfondir, parce que vous avez retourné avec votre pas de côté, vous retournez les choses, c'est très bien. Mais est-ce qu'on peut prendre les choses à l'inverse, dire les féministes, est-ce qu'aujourd'hui le combat féministe a conscience que, contrairement à ce que disait Sartre dans la citation que je donnais au début, les romans, les pièces de théâtre, etc., n'ont pas toujours vocation à être émancipateurs, émancipatrices.
Mais c'est une.
Que les hommes et les femmes de culture peuvent être non seulement humanistes, mais aussi tout à fait misogynes, sexistes.
Ça c'est entendu, mais aussi du point de vue de ce que j'appelle aussi la pensée féministe, j'insiste toujours sur le mot pensée, vous m'entendez, c'est-à-dire que c'est une articulation de réflexion, c'est une articulation de concepts, et c'est pas seulement une humeur. On a toujours voulu réduire ces mires à de la passion et de l'humeur. J'ai essayé de consacrer mes travaux à dire le contraire, ou à démontrer, plutôt que de dire, à démontrer le contraire. Donc à partir de là, on va se retrouver dans les contradictions et dans les contretemps. Et on ne fait que ça, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir... Vous prenez la philosophie des Lumières, puisque vous la citez. Est-ce que la philosophie des Lumières, est-ce que la Révolution française est féministe ? Pour ma part, en écrivant Muse de la raison, je découvre que c'est une démocratie exclusive. Pas excluante, mais exclusive. Donc qui ne va pas nécessairement penser l'égalité des sexes, parce qu'elle ne peut pas le penser. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi elle n'arrive pas à le penser, alors qu'elle pourrait le penser. Donc on rentre là dans les contradictions. Puis après, on rentre dans les contretemps. Ah oui, vous voulez vous libérer, mais d'abord faites la révolution avec moi. Puis après, nous vous libérerons, vous vous libérerez. Toute cette dimension quand même étonnante de cette année, qui est que ce n'est pas les femmes qui ont pris la parole, c'est la parole qui s'est libérée. Il faut un passif et non pas un actif. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Là, on rentre dans un espace de contradiction au niveau de l'identification même de ce que serait de penser cette question-là, qui n'est pas seulement une question d'humeur, mais une question de construction. Et cette construction va s'avérer effectivement potentiellement contradictoire. Et alors, avec tous les débats qu'on aurait aujourd'hui sur est-ce une intégration dans le capitalisme ou n'est-ce pas une intégration dans le capitalisme, on peut, à travers la parité qui fait monter les femmes dans la hiérarchie sociale, mais pour quel but ? Hein, pour un but capitaliste ou pour un but universel et voire communiste ? On ne sait pas. Donc toutes ces contradictions, on va les rencontrer. Mais ça, c'est ça qui fait la réflexion sur la pensée elle-même. Mais voilà, après... Je peux le démontrer à travers un exemple, mais vous m'attendez peut-être pour que je le garde pour tout à l'heure.
Non, allez-y.
Un exemple, mais sous forme de pas de côté. Hein.
C'est un exemple très simple, que je prends très souvent, parce que ça fait partie des travaux que j'ai faits. Vous prenez Ulysse et le passage et les sirènes. Ulysse et les sirènes, mythe évidemment transformé tout au long de 25 siècles, se trouve complètement transformé avec le 19e siècle, c'est-à-dire avec l'ère démocratique. Premièrement, on passe au singulier, avec Ondine chez Lamotte Fouquet, puis on passe au fait de savoir si la sirène pourra aimer le pêcheur. Pour aimer le pêcheur, il faut qu'elle ait une âme. Ah, mais on lui dit, si tu veux une âme pour aimer le pêcheur, c'est là où on aura deux êtres semblables. Il faut que tu abandonnes le champ. L'âme contre le champ. Tu nous donnes ton champ et tu auras une âme et tu pourras aimer le pêcheur. Donc on aura l'homme et la femme égale. Ça, c'est Andersen. Puis après, vous avez Oscar Wilde. Là, c'est le pêcheur qui veut aimer la sirène. Ah, on lui dit, si tu veux retrouver la sirène au fond des eaux, il faut que tu abandonnes ton âme. Bref, pour être des semblables, il faut perdre quelque chose. Ça, c'est toute l'histoire du 19e siècle par rapport à, finalement, la question de l'égalité qui est posée par l'ère démocratique. Il n'y a pas besoin d'être là dans le combat et dans les victoires des fêtes. C'est que fait-on, comment pense-t-on l'égalité ? C'est le plus difficile à faire. Penser l'égalité des sexes. On préfère le penser avec, vous savez, les plateaux de la balance qui montent et qui descendent. Alors, soit c'est la guerre, soit l'un est meilleur que l'autre, soit j'ai entendu un grand intellectuel l'autre jour dire qu'on fonçait droit dans le matriarcat, pour bientôt, je vous informe, quand vous ne le sauriez pas. Hein, voilà, donc on est
si
là...
c'est un grand intellectuel, il a peut-être un nom.
Je ne voudrais pas l'ennuyer. Mais la sirène, elles vont redevenir plurielles au XXe siècle. C'est intéressant, ça, par rapport aussi au féminisme. Elles reviennent plurielles sous la plume de Kafka ou sous la plume de Blanchot. Mais là, c'est soit le silence, soit la promesse. On ne sait pas ce qu'elles vont dire. Qui y a-t-il ? Mais on n'est plus dans l'altérité de l'Antiquité, on est dans une pensée de l'ère démocratique. Donc, voilà, ça, c'est comme ça qu'on peut penser. Ce n'est pas avec le combat ou le...
Alors, ça rejoint un petit peu ce que disait Florian Guettet tout à l'heure, par rapport à la fois à la façon dont on perçoit les œuvres, mais aussi de la façon dont on peut les lire. On discutait tout à l'heure un petit peu avant l'émission. Vous me parliez d'une compagnie. Je crois que c'est une compagnie. C'est ça qui s'appelle les Platones et qui relie, qui réinterprète Le Banquet, mais d'un point de vue féminin. Alors, c'est peut-être pas exactement comme ça. Vous allez nous expliquer. J'aimerais comprendre ce que ça change. Ça permettrait aussi peut-être de répondre à ce que disait tout à l'heure Jean-Pierre Le Goff, qui disait, moi, peu importe que ce soit un homme ou une femme, je le lis d'abord en tant qu'une œuvre asexuée.
Alors, juste cette question de l'art asexué. Effectivement, je pense aussi que la rencontre, c'est comme ça que Deleuze parlait de la fréquentation des œuvres. On rencontre des œuvres comme on rencontre des personnes, et c'est vrai que ces personnes-là, elles sont pas forcément sexuées au départ. En revanche, moi, je me place pas au-dessus des gens, ou en tout cas, j'ai pas l'impression que c'est une visée universaliste qui me fait rencontrer les œuvres, mais au contraire, c'est peut-être en deçà, plutôt vers le singulier. Et ce singulier-là, effectivement, parfois, il a un genre pas défini, non défini, il a peut-être plusieurs genres aussi, et c'est plutôt comme ça que je rencontre. Maintenant, pour votre question, effectivement, il y a ce projet d'une troupe de performeuses qui viennent d'horizons très divers, qui se sont réunis autour d'un constat qui était un constat que finalement un philosophe avait fait avant elle, mais qui était un philosophe à la fois très proche des femmes et peut-être un peu trop proche parfois, qui était Derrida, qui parlait du phallogocentrisme. Et le phallogocentrisme, c'était de dire, mais finalement, toute cette langue rationaliste qui a fondé les discours européens, elle est elle-même genrée, elle est elle-même produite par des hommes, pour des hommes, dans des représentations souvent phalliques, donc de puissance, d'hégémonie, de force, etc., la force du concept, l'idée que la discussion soit une sorte de combat à mort, etc. Et donc, elles ont voulu se dire, mais si finalement il y avait eu un autre départ à la philosophie, si finalement Platon, qui est pensé comme un des pères, parce que c'est un des premiers à avoir écrit après Socrate, si ce Platon-là avait été une femme. Et elles prennent pas n'importe quel livre, elles prennent Le Banquet, qui est un des livres de maturité de Platon, où pour la première fois, Socrate laisse la place à une femme, à la prêtresse Diotime, pour énoncer la vérité. C'est la seule fois, en fait, dans l'œuvre de Platon. Donc elles reprennent ce banquet où il y a 7 discours et chaque discours va être l'occasion d'une performance où elles vont réécrire. Alors là, on est vraiment dans un travail de réécriture complet des références, elles vont même actualiser avec certaines références aux contemporains pour pouvoir réinjecter du féminin dans cette histoire-là du discours philosophique. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Évidemment, il y a quelque chose de très excluant pour les hommes. Et très honnêtement, moi, j'ai fait l'expérience. Ça fait du bien quand même aussi de se sentir en minorité quand on est un homme blanc. Ce qui m'arrive très peu. Enfin, soyons concrets, ça m'arrive très peu. Et ça m'arrive très peu dans le champ de l'art, comme ça m'arrive très peu à l'université aussi. Donc, d'avoir à un moment cette place-là assignée, eh bien, je sais que c'est une fenêtre et je la prends avec plaisir. Et effectivement, je relis différemment cette histoire de la philosophie qui est mon héritage, qui est basée sur une fausse objectivité, une fausse neutralité de genre, alors que finalement elle est contaminée par cette puissance masculine.
Fatou Diom, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'expérience ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble intéressant ? Et question subsidiaire, est-ce que vous, par exemple, il vous arrive, à la lecture de certaines œuvres, de vous sentir en minorité en tant que femme ?
Moi, quand j'écris, je ne me pose pas la question du genre. Donc, c'est après mes livres que les gens me disent « Oui, Fatou, vous avez défendu les femmes, la situation des femmes en Afrique, la situation... » Je n'ai pas cherché forcément à défendre cela. C'est que j'ai voulu parler de gens qui étaient en souffrance. Il se trouve que très souvent, ce sont des femmes ou des enfants qui sont en situation de fragilité. Donc, si on réfléchit pour améliorer quelque chose de la société en s'intéressant aux plus fragiles, il y a vraiment de fortes chances que l'on tombe, et très souvent, sur des femmes, des personnes âgées, des enfants. ce sont des tranches de la population, des franges qui sont vulnérables. Donc quand je parle de ça, ça ne veut pas dire que je suis le personnage féminin malheureux dans mon livre. C'est pas forcément moi, parce que je n'ai pas souvent eu à me positionner par rapport au féminisme.
Et ça, là, c'est en tant qu'écrivain, Fatou Diop, mais en tant que lectrice,
oui,
ou spectatrice.
En tant que lectrice, je pense par exemple à un livre de Maria Maba qui s'appelle Une si longue lettre, qui est le livre africain qui a vraiment dévoilé la toute première fois la condition féminine en Afrique. Moi, j'ai lu ce livre et puis quand j'avais vers 16-17 ans, je réécrivais pour donner d'autres dialogues aux personnages pour que ces femmes-là se révoltent un peu plus et s'affirment et disent quelque chose. Parce que moi, je suis élevée par un pêcheur qui ne m'a jamais autorisée à me dire ben, « je ne suis qu'une fille ». Donc là, je reviens à la question du départ qui disait si la culture doit être féministe. Si on entend par culture les acquis, les codes qui gèrent la société, oui, effectivement, si on entend par féminisme le fait de donner plus de responsabilités ou plus de place aux femmes, oui, effectivement, on doit banaliser le fait qu'une femme puisse être un individu respectable et qui compte. Maintenant, si on regarde dans les romans, souvent les personnages féminins sont placés en position de victime. Donc prenez Thérèse d'Esquerous de Mauriac, prenez Catherine et Grouchenka dans Les Frères Karamazov, ou même chez un Sénégalais, Abdoulaye Sadji avec Maïmouna, son simple désir de liberté la condamne. Donc tant qu'on montrera les femmes comme ça, eh bien oui, les femmes seront toujours dans l'obligation de dire « je ne suis pas que cette victime-là ». Parce que ne plus être victime, eh bien, c'est ne plus avoir besoin de revendiquer la nécessité de s'affranchir. Voilà. Donc.
Jean-Pierre Le Goff.
Oui, enfin, sur ce qui vient d'être dit, je suis totalement... la dernière fois, je suis totalement d'accord. Le problème pour moi est qu'il faut faire attention, dès qu'on pose le problème un peu dans ces termes-là, un repli identitaire, c'est-à-dire qu'on perd, on part du féminin, on va vers l'œuvre. Moi, j'ai indiqué ma démarche, elle est totalement différente. C'est-à-dire que je pense que quand on parle littérature, art pictural, bien sûr, il y a un rapport au monde particulier, mais je me sens aussi interpellé par des œuvres qui ne sont pas simplement celles des hommes ou des femmes. Et puisqu'on parle d'ailleurs du rapport homme-femme, j'aimerais quand même vous citer... excusez-moi, j'en reviens un peu à Malraux, mais enfin, il dit « aimer la poésie, c'est qu'un garçon, fût-il quasi illettré, mais qui aime une femme, entende un jour ces vers de Victor Hugo, lorsque nous dormirons tous deux dans l'attitude que donne aux morts pensifs la forme du tombeau, et alors qu'il sache ce qu'est un poète. » Bien ça, pour moi, si vous voulez, ça dépasse toutes les déterminations existantes. Si je prends Antigone, je pourrais prendre Antigone et vous dire, attendez, mais Antigone, c'est une femme. Oui, mais il n'a pas été écrit par une femme. Attention, on rentre dans des considérations, on va se noyer, si vous voulez. Et par exemple, ce que nous dit Antigone quand elle nous dit, nous sommes de ceux qui posent des questions jusqu'au bout. Ah, vos têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur. Cette espèce de révolte, pas simplement parce qu'il y a une dimension de domination, mais par rapport à la condition humaine elle-même. Et c'est aussi ce qui fait l'œuvre d'art et qui fait qu'elle dépasse la simple dimension du combat d'émancipation au sens des luttes, avec une dimension qui a existé, qu'aujourd'hui je crains qu'elle se perde un peu. Finalement, comme disait Malraux, c'est la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, d'une certaine façon. Et nous avons en commun, au-delà même des sexes, une condition humaine, la naissance, le tragique de la vie, la mort, la différence des sexes. Et oui, elle fait partie de la condition. Et la façon de la représenter, ce n'est pas la pure expression de la subjectivité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un travail de l'art, et sans parler de génie créateur, il y a une singularité de l'artiste. Ce n'est pas une femme, elle s'appelle Hannah Arendt quand elle écrit la condition humaine. Et il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Et on pourrait dire ça pour Virginia Woolf également. Et en même temps, la singularité en tant qu'individu, elle nous interpelle, nous, que nous soyons hommes ou femmes, parce que nous participons malgré tout de la même condition humaine et nous travaillons, nous regardons cette condition humaine non pas spontanément comme une objectivité, mais à travers un langage et à travers un héritage qui nous est donné. Et un artiste sait s'insérer dans cet héritage pour creuser son propre sillon, qu'il soit homme ou femme, et je pense que
Et après, ensuite, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Voilà un peu la façon dont j'envisage les choses.
Ce qui est intéressant, Geneviève Fraisse, je me tourne vers vous à nouveau, c'est que, paradoxalement, Jean-Pierre Le Goff, par son discours en disant, finalement, qu'on soit homme, qu'on soit femme, quel est le problème, c'est pas ça qui est intéressant, finalement, il rejoint un certain discours post-féministe ou féministe queer, etc., qui dit, aujourd'hui, les identités, ça n'est pas intéressant, c'est pas important, toute identité sexuée est une pure construction sociale ou culturelle, etc., etc. Or, en fait, aujourd'hui, un certain féminisme ou une certaine dans l'art et dans l'écriture et par exemple dans la littérature considère que être féministe et défendre des choses c'est au contraire revenir à une conception d'identité forte et je pense et donc dire être une femme c'est quelque chose et je pense juste à je voudrais juste vous citer cela à Christine Angot qui dans ses romans dit qu'elle veut défendre un certain savoir féminin spécifiquement féminin. Et elle a cette manière très belle, je trouve, de le dire. Elle dit que c'est pas du tout un savoir abstrait ou théorique. Elle dit que c'est très, très concret. Ça relève de la joie, et je la cite. Le savoir féminin, ça n'a rien à voir avec le discours féminin. C'est lié à la gaieté intense qu'on a à être une fille. C'est marrant d'être une fille. C'est marrant d'être une fille. Et cette gaieté, on essaye de nous la retirer. Et ça rejoint plein d'autres choses qui se passent chez Yasmina Reza, chez Agnès de Sartre, chez Catherine Millet. La joie d'être une fille, simplement, comme quelque chose de spécifique, comme un savoir singulier qui donc dit non, non, c'est important de dire féminin ou masculin, c'est pas peu importe. Et donc, le féminisme dans l'art devrait renouer avec une certaine, devrait tenir bon sur la question de l'identité féminine.
Alors, je suis au plus loin de tout cela. Je suis obligée de faire un tout petit détour par mon propre travail puisque j'ai tenté dès le départ de ne jamais passer par la case philosophie de l'identité, ni par la case catégorie femmes-hommes, mais de trouver quels étaient les problèmes que la philosophie pouvait se poser concernant la relation entre les sexes. On citait le consentement tout à l'heure, ou la démocratie exclusive, ou les deux gouvernements, enfin tous les, ou même le privilège de Simone de Beauvoir. Chaque fois, je cherche à trouver le problème et non pas l'identité. Donc, de ce point de vue-là, je vous entends, je vous écoute, mais j'en suis loin puisque j'ai considéré que c'était un obstacle. Un obstacle pourquoi? Parce que ce que j'ai essayé de montrer dans les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, c'était finalement l'historicité. C'est-à-dire ce qui fait histoire, car ça me semble être le lieu de l'émancipation et de la subversion, le lieu le plus porteur, plutôt que de jouer sur je suis universelle ou je ne suis pas universelle, je suis telle catégorie ou je suis féminin, je suis femme, je suis homme. Et l'historicité me paraît être le lieu de toutes les inventions possibles, et c'est ce choix-là que moi j'ai fait. Et je vais en donner un exemple à propos de Virginia Woolf, puisqu'elle a été citée deux fois par Jean-Pierre Le Goff, qui est tout à fait précisément par rapport à la question de l'universel. Car c'est ce que j'appelle le passage à l'universel. Elle réfléchit précisément au passage de l'universel dans l'écriture féminine. Aussi bien dans Trois Guinées et aussi surtout dans Une chambre à soi, elle dit à plusieurs reprises une phrase qui m'a interpellée, que j'ai gardée pour moi, qui est, on est en 1929, dans 100 ans, elle sera un poète. Ça veut dire, elle cessera d'écrire dans la rage, comme l'ont fait les sœurs Brontë, qu'elle oppose à Jane Austen, femme du 19e siècle, et elle va enfin passer à cet universel, mais il faut 100 ans pour qu'elle passe à l'universel. Donc ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas, et elle répond finalement à Nietzsche, qui disait, quand les femmes écrivent, elles feraient mieux de se taire. Pourquoi? Parce qu'elles ne cessent de s'expliquer sur leur propre compte. Elles s'expliquent sur leur propre compte, elles racontent leur histoire. Et finalement, c'est à ça que Virginia Woolf répond. Moi, j'aime faire se répondre les auteurs. Parce que on rentre comme ça dans l'histoire, et dans une écriture de l'histoire, du sexe, des genres, vous faites comme ce que vous voulez avec la terminologie identitaire. Parce que ce qui est important, c'est de savoir justement comment se construit cet universel. Et précisément chez Virginia Woolf, c'est une question sur laquelle elle n'arrête pas de revenir. Parce qu'elle essaye de le creuser le plus possible pour identifier l'obstacle et surmonter l'obstacle pour un passage à l'universel.
Alors, vous évoquez donc Virginia Woolf. On avait déjà parlé hier. Dans 100 ans, c'était en 1929. Bah, dans 100 ans, on y est
on
presque.
On y est presque.
Et oui, c'est dans un tout petit peu plus de 10 ans. Est-ce qu'on y est presque, justement, aujourd'hui, Fatou Dionne, dans ces 100 ans et dans ce qu'espérait Virginia Woolf? Sur la place des femmes aussi dans la littérature.
Alors moi, je ne veux pas déprimer les gens, mais je pense qu'on n'y est pas encore tant qu'on pourra nous faire un... je cite, « Ah, tu écris comme un homme. » quand cette phrase-là est supposée être un compliment, je trouve qu'il y a encore du chemin.
Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on vous a déjà dit.
Ben oui.
À propos de quel genre de phrase ou à quelle façon de s'exprimer?
C'était après le Ketala et puis il n'a souvi nos vies. Et donc, tu écris comme un homme, pourquoi? Parce que c'était pas pour parler du mariage, de la maternité ou je ne sais quoi d'autre où on enferme les femmes. Donc, il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent que la grande littérature, c'est Hugo, voilà, c'est Balzac, c'est Senghor, c'est Cheikh Amadou Kane, en oubliant Marguerite Yourcenar. Alors que moi, quand je lis Marguerite Yourcenar, je considère que je lis un grand auteur, comme Hemingway et puis comme Bernard Shaw ou d'autres encore. Donc cette qualité de l'artiste qui produit une œuvre, pour moi, ça va au-delà du genre. C'est, d'abord, c'est des compétences et comme monsieur disait tout à l'heure, en lisant, en découvrant une œuvre d'art, on n'est pas enfermé dans le genre de l'auteur. Or, on voudrait tout le temps, et j'ai une petite révolte parce que je suis inconfortable en fait. Parce que je suis consciente qu'on doit défendre nos acquis par rapport au féminisme, mais en même temps, je suis toujours inconfortable avec l'idée d'être enfermée dedans. C'est un peu comme le combat de la négritude aussi, quoi. Je ne veux pas passer ma vie à faire la négritude. Elle a eu lieu. Je veux continuer. Et pour le féminisme, j'ai envie d'hériter de nos aînés, d'apprendre de nos aînés et prolonger, et pas simplement rester là-dessus.
Mais sans le faire sur le monde du combat fatodium, on peut aussi peut-être considérer que s'il y avait davantage de femmes dans l'art, dans la culture, enfin la culture au sens d'offre culturelle, il y aurait peut-être aussi un art qui serait différent. Il y a eu en mars dernier une tribune dans l'excellent journal Le Monde, une tribune de professionnels du cinéma en faveur, alors c'était pour demander des quotas pour que 50% des subventions aillent à des projets portés par des femmes. Et il y avait notamment cette phrase qui disait ceci: le cinéma a besoin de l'imaginaire des femmes. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que le cinéma, mais on peut aussi dire le théâtre, mais aussi la littérature, ont besoin de l'imaginaire des femmes, Florian Guettet?
Bien sûr, et puis ils ont besoin surtout de la révolte des femmes. Je crois qu'il y a une vraie révolte aussi des femmes qui fait partie, alors pas d'un point de vue essentialiste, mais il y a une identité historique des femmes, il y a une identité qui est aussi une identité parfois laminée, parfois souvent minorisée, etc. Moi, je pense vraiment à ce tournant des années 60-70, quand aux États-Unis, quand on ouvre les universités aux femmes, et notamment en art, et on leur enseigne la peinture, et puis évidemment tous les professeurs sont des hommes, et puis dès qu'il y a une femme qui commence à faire une référence à son sexe, à ses menstruations, à la maternité, eh bien on va effectivement, comme je le disais, la ramener à sa particularité, puis lui dire tu fais des choses de bonne femme, et c'est pas l'art, quoi. L'art ça ne peut pas se cantonner à ça. Puis à ce moment-là, il y a Judy Chicago qui dit bah moi je peux pas faire ça ici, alors je m'en vais, je claque la porte de l'université. Puis je vais rejoindre d'abord une petite école un peu progressiste en Californie, et puis je vais ouvrir une woman house dans une maison abandonnée, et puis je vais réunir tous les gens qui veulent, toutes les femmes qui veulent s'exprimer ici. Et d'un coup, il y a un asile qui se crée parce que précisément, elles étaient exclues de tous les musées, etc. C'est-à-dire, ce sont des représentations qu'on ne voyait pas, qui étaient complètement interdites, censurées de façon latente ou de façon plus franche parfois. Cet imaginaire-là, effectivement, on peut pas le réduire à une problématique identitaire. Je vois pas pourquoi moi, je serais moins concernée par la maternité ou même par les menstruations parce que je ne suis pas une femme. Donc, il y a un moment aussi de pouvoir se réapproprier ces thèmes-là, peut-être les universaliser, peut-être en tout cas les singulariser par l'art, c'est-à-dire faire un moment qu'elle soit dégenrée et que tout le monde puisse se les approprier, ça passe aussi par injecter de l'imaginaire féminin là où précisément il fait défaut. Et ce mécanisme-là, il va pas simplement. Alors c'est très bien les quotas, pourquoi pas. C'est un peu comme les logements sociaux, quoi. On va infliger des amendes et puis on va dire si vous avez pas fait, etc. Mais si à un moment effectivement il n'y a pas de position plus volontariste de la part des décideurs, eh bien oui, il faudrait peut-être en passer par là. Moi, tout ce que je vois, c'est que j'enseigne en école d'art aussi, qu'il y a 80% de filles dans les écoles d'art, et que par contre, quand on passe dans les prix, dans les monographies des institutions, dans les biennales de jeunes créations, etc., le taux de filles passe de 80 à 20. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte de vase communicant.
Et où est le verrou, d'après vous? Où est-ce que se trouve le verrou central ou le plus important?
Ah, Moi, je crois qu'il y a une forme d'idéologie latente où on ne fait pas confiance de toute façon aux capacités de décision et de managing des femmes. Il y a vraiment un truc là-dessus où on, de toute façon, on voit, par exemple, je crois que les institutions culturelles réservées au spectacle vivant, donc ça comprend quand même la danse, qui est quand même assez genrée, au niveau national, c'est 9% de représentation des femmes contre 91% des hommes. Donc ça vous donne quand même une idée d'aujourd'hui où on en est, malgré tout le côté, voilà, effectivement, on a tendance à dire que la culture est plutôt de gauche, humaniste, etc. Mais dans les faits, ça ne se traduit pas. Il y a encore beaucoup de machisme dans les acteurs culturels, et ce sont les acteurs culturels qui décident aussi de ça. Moi, je pense que je vais pas demander aux artistes, enfin, je trouvais ça ridicule de demander aux artistes de faire la morale et de représenter plus de femmes dans les tableaux ou dans les trucs. En revanche, du point de vue de ceux qui décident des programmations, du point de vue des commissaires d'exposition, etc., là, il y a quand même tout un travail à faire sur comment rééquilibrer parfois les représentations.
Et c'est vrai que si on se place du point de vue des statistiques, il y a notamment eu une récente étude de la SACD. La SACD, c'est la Société des auteurs compositeurs dramatiques, qui faisait le constat suivant. Les femmes représentent 52% des étudiants dans les formations en spectacle vivant. Et elles sont seulement, alors c'est seulement quelques exemples, hein, mais 1% des compositeurs programmés dans les saisons culturelles et 4% des chefs d'orchestre. Ouais, on est très loin de la parité. Je vous entendais, Fatoudiome, dire au début de l'intervention de Florian Guettet, je ne suis pas d'accord. Peut-être que vous êtes davantage d'accord depuis...
Moi, ce qui me gêne, c'est cette idée d'un imaginaire essentiellement féminin. Est-ce que les femmes sont supposées savoir tout de la maternité et toutes autant qu'elles sont? Ce n'est pas forcément vrai. Vous avez dit que vous ne pourriez pas l'exprimer. Moi, j'ai vu Nom Cheikh Amidou Kane faire parler un personnage féminin. On a l'impression que c'était lui. Donc, et ça, c'est du talent d'artiste, ça, c'est de la création, justement, parce qu'une œuvre d'art n'a pas à être identique. C'est une sublimation, c'est une composition, donc c'est une création qui va au-delà de tout ce qui est génétique et hormonal et qui nous définit en tant que masculin ou féminin. Moi, je veux aller au-delà de ça parce que, et je vous dis toujours mon inconfort, j'ai du mal avec ça parce que j'ai du mal avec, par exemple, quand on me parle de la littérature africaine, francophone, féminine. Donc moi, le temps de briser toutes ces barrières-là, j'aurai le temps de me laisser pousser une barbe. Donc, maintenant, il y a aussi le
peut-être dans 100 ans.
Oui, mais cette manière de nous enfermer dans une espèce d'assignation identitaire féminine, même dans la création littéraire, ça consiste à toujours encore assigner la femme dans une
boîte. Oui, mais quand Christine Angot le dit, Fatoudiome, quand Christine Angot le dit...
Ah, moi, je parle à mon nom. Donc,
oui, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette formule?
Moi, je dis ce que je pense là. Et ce que je pense, moi, c'est que quand on nous dit que ça, c'est l'imaginaire féminin, essentiellement imaginaire féminin, j'ai l'impression que c'est une manière de nous refuser tous les autres champs thématiques. Alors qu'en tant qu'artiste, on a à s'approprier n'importe quel champ thématique, pourvu que le talent suive, pourvu que l'envie accompagne cette œuvre-là. Donc, quand on voit les œuvres de Camille Claudel, et puis je vois les œuvres de Rodin, je suis désolée, il y en a qui aiment Rodin, moi j'adore Camille Claudel. Mais si j'étais sous mes cocotiers au Sénégal et vous me montrez ces sculptures-là, je ne saurais pas si c'est une femme ou un homme. Je verrais juste une sculpture magnifique. Donc voilà, et donc je voudrais pour la création qu'on arrive à un moment donné où homme ou femme, qu'on accepte tout simplement par exemple que c'est une personne qui crée. Oui. Ça suppose des compétences.
Mais alors, Fatoudiome, pardon, je voudrais que vous répondiez juste à cette question parce qu'on est dans un lieu de débat, etc. Donc on parle en son nom, oui, et on aime bien réagir à ce que disent les autres, qu'ils soient à la tribune ou pas. Ce que j'ai cité tout à l'heure de Christine Angot qui rejoint d'autres auteurs comme S. de Sarthe ou Yasmina Reza qui considèrent qu'effectivement, il n'y a pas à juger en fonction du sexe, etc. Mais que quand même, on peut partir de ce qu'on est. Et par exemple, pour Angot, de ce qu'elle appelle la joie d'être fille et le savoir féminin, pour vous, ça, c'est quelque chose qui est complètement abstrait.
Ça, c'est elle. Moi, je suis en tant qu'auteur, je parle dans ma manière d'écrire et de créer. Moi, je vous parle de la pêche parce que j'allais à la pêche avec mon grand-père. Et donc...
Quelqu'un d'autre dit quelque chose, vous pouvez peut-être
avoir un avis. Non, elle le dit. Moi, quand je la lis, je ne suis pas critique littéraire. Donc mon avis, pour rester parfaitement confidentiel, je suis une citoyenne qui lit une collègue et je ne juge pas les collègues parce que je ne suis pas critique littéraire. Mais je défends mon opinion en tant qu'auteur parce que c'est ce que j'essaie d'être. Et l'auteur que j'essaie d'être, je veux pouvoir parler pour les hommes, pour les femmes, pour les vieux, pour les bébés, pour les Inuits, pour les Sénégalais, pour les Alsaciens et pour les Montpellierins. Je veux squatter toutes les identités possibles pourvu que la production, la poésie qui sortira vous plaise. Et si elle ne vous plaît pas, tant pis, j'aurais quand même essayé.
Alors je vais vous citer juste une chose là-dessus. Vous savez que... Il y a un rap, puisqu'on parle de culture, il y a un rap de ce rappeur qui s'appelle Youssoupha, qui est un rappeur important de l'époque contemporaine, et il a samplé un passage d'Aimé Césaire. Mmh. On entend Aimé Césaire qui dit « Pendant longtemps, j'ai cru que pour être universel, il fallait plus être nègre. Et un jour, j'ai compris que plus j'étais nègre, plus j'étais universel. » Ce qui veut dire qu'en fait, parfois, l'universel, c'est pas juste d'effacer l'identité et de dire, en fait, tout ça, c'est pas important, on dépasse, etc. Non, parfois, c'est dans un point d'intensité qu'est l'identité qu'on peut aboutir à l'universel. C'est un moment où, effectivement, on s'ouvre à tous. Voilà. Mais c'est pas forcément le quelconque et le rassemblement informe. Voilà. Je voulais vous citer Aimé Césaire parce que c'est exactement le sujet. Plus je suis nègre et plus je suis universel.
Sauf que je n'essaie pas d'être nègre. Je n'essaie pas seulement d'être universel. J'essaie d'être Fatou Diome avec ce qui marque ma trace au monde.
Et même plus on est femme, plus on est universel parfois. Mais...
Alors Jean-Pierre Le Goff et ensuite Geneviève Fraisse.
Non, mais là, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire dire je suis nègre. Il y a un passage à l'universel. Ce n'est pas, et le passage à l'universel, ça veut dire un travail de l'œuvre. Ça veut dire qu'on travaille et qu'il y a une création qui est à la fois totalement originale et qui passe par la symbolique, c'est-à-dire qui n'est pas simplement l'expression anthropologique de son identité propre, mais qui il y a une dimension de transcendance dans l'œuvre d'art, à mon sens, qui passe par ce travail. Et donc, moi je veux bien, si vous voulez, bon, on a parlé d'imaginaire, ça existe. Bon, moi, il se trouve que je pourrais pas porter les enfants, si vous voulez. On va vous dire, mais ça, on peut pas savoir dans 100 ans, transhumanisme et compagnie. Oui, eh ben, j'ai pas la même expérience au monde, d'une certaine façon. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, ça ne m'empêche pas de lire des choses et de comprendre, d'essayer par l'imagination, j'allais dire en lisant une œuvre, d'essayer de me mettre à la place d'eux par l'imagination. Si on rentre dans les identités, il y a l'imaginaire des femmes, des vieux, des jeunes, et on va pas s'arrêter. Et là, on réduit l'œuvre d'art à une dimension purement anthropologique, et ça renvoie à la question que j'ai essayé de poser. Ne confondons pas l'anthropologie, qui renvoie effectivement à des identités, à des spécificités, avec la dimension de l'œuvre. Et le problème, c'est que le mot culture renvoie à ces deux aspects-là. D'où d'ailleurs, on peut passer sans arrêt d'un aspect à un autre. Et il y a un ministre, d'ailleurs, dans les années 80, qui a passé allègrement à ça. Il s'appelait Jacques Lang. C'est-à-dire le fait de boire un verre de rouge, mon attitude est culture, ce qui n'est pas totalement faux. Anthropologiquement, puisque nous sommes là autour d'une table, il faut réfléchir, etc. Nous exprimons toujours quelque chose, une particularité. Mais en même temps, ça ne signifie pas que tout se vaut et que la façon de parler est une œuvre. Pour ça, il faut du travail et d'une certaine façon, pour moi, ça pose la question de la hiérarchie. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que c'est une expression particulière, même révoltée, même par les dominés, que c'est de l'œuvre d'art. Et je pense qu'il peut y avoir un réductionnisme avec cette vision où finalement le dominé dans l'œuvre d'art aurait un privilège, mais s'il a un privilège, c'est pas en tant que dominé, c'est en tant qu'individu créateur visant l'universel. Et c'est ça qui nous intéresse avant tout. Enfin, c'est moi, c'est ça qui m'intéresse avant tout.
Geneviève Fraisse, est-ce que finalement, la question, peut-être plutôt que de la poser du point de vue d'une forme de sensibilité qui serait spécifique à la façon qu'ont les femmes d'écrire, de filmer, de mettre en scène, par exemple, certaines œuvres théâtrales. Il faut pas d'abord la poser du point de vue de l'accès plus large des femmes au monde de la culture. Au monde de la culture, je donnais les statistiques tout à l'heure, mais sans se dire, finalement, ça va permettre d'avoir des œuvres qui auront une tonalité qui sera celle-ci parce qu'elles seront faites par des femmes, mais on aura, en tout cas, une offre culturelle qui sera beaucoup plus diversifiée parce qu'il y aura davantage de femmes qui seront en position soit de produire ces œuvres, soit en tout cas d'être à la tête d'institutions pour promouvoir ces œuvres.
Oui, alors il y a... Je vais faire une double réponse. La première, concernant aussi cette question d'identité, j'ai envie de citer Marie Basquercheff, peintre formée à l'Académie Julian dans la seconde moitié du XIXe siècle, morte très jeune, peintre, et qui écrit aussi un journal. Et dans son journal, elle dit « J'ai une enveloppe de femme, mais en fait, je suis un homme ». Tout ça pour dire que le nombre d'identités que nous avons, et pas seulement d'être blanc, hétérosexuel, ou blanc, homosexuel, ou non-blanc, hétérosexuel, ou femme, homme, etc., mais on peut être plusieurs identités à la fois, aussi éventuellement contradictoires entre elles. Ça, c'est quelque chose à quoi je tiens énormément, s'il faut parler d'identité. Maintenant, vous me renvoyez, et je voulais justement intervenir sur la question que vous posez, c'est-à-dire, il y a des conditions d'accès qui sont données, il y a des conditions d'accès qui sont données aujourd'hui. Ces conditions d'accès font qu'effectivement, on va avoir dans les écoles d'art, comme dans les écoles d'ingénieurs, comme n'importe où, une mixité qui va probablement aller, encore qu'en mathématiques, il n'y a plus une seule femme, paraît-il, à l'école normale supérieure, et que ça pose un problème intellectuel et politique. Mais en attendant, si on a les conditions d'accès, ça, c'est les conditions de l'égalité. Maintenant, la réalisation de l'égalité, c'est pas la même chose que les conditions de l'égalité, et c'est pour ça qu'on s'arrête à cette différence qui est que tout d'un coup, il n'y a plus personne. Et là, je vais encore citer des auteurs du passé, notamment un poète de la fin du XVIIIe siècle, qui se dispute avec une poétesse de même qui s'appelle Constance de Salm, et lui écoute Charles Brun, et lui dit « Restez, inspirez-nous, faites l'amour avec nous la nuit, comme ça vous nous inspirez, mais ne soyez pas poète, parce que ça c'est notre job. » Et qu'est-ce qu'il explique par là? C'est pas seulement la répartition des identités, la répartition invariable des rôles sociaux ou des rôles anthropologiques. C'est que, il le dit très clairement, si vous devenez vous aussi des poètes, alors nous doublons la surface de rivalité. Non seulement il va y avoir la rivalité entre hommes, mais en plus il va y avoir la rivalité entre hommes et femmes. C'est trop. Et ça, j'ai un nombre de textes que je peux vous donner sur « Nous avons peur de la rivalité ». Si les femmes partagent avec nous la création, le pouvoir, etc., qui sont réels. Ça, c'est là où on touche aussi à la question de l'égalité. Est-ce qu'on est prêt à partager ça aussi, c'est-à-dire le challenge? Eh bien, ça, c'est pas les conditions de l'égalité, c'est la réalisation de l'égalité, et c'est bien autre chose. Et au même moment, Charles Fourier, qui écrit aussi en 1808, il fallait des Spartacus féminins, alors qu'on a eu des écrivaines. Il faut rivaliser l'homme. Il l'emploie au sens transitif, le mot rivalité. Ça m'interpelle beaucoup. Pourquoi il l'a mis au sens transitif? Comme s'il essayait de déjouer ce mauvais procès qu'on se ferait entre sexes sur rivalité ou pas rivalité. Et moi, je suis plutôt Charles Fourier.
Alors, Florent Guédé, Geneviève Fraisse a utilisé un mot qui est le mot partage. Vous savez, le philosophe Jacques Rancière parle à propos de l'art engagé, du partage du sensible. Il dit, un art engagé, un art politique, c'est pas un art qui va balancer des slogans politiques très clairs pour ci ou pour ça. C'est un art qui va juste déplacer le partage du sensible, c'est-à-dire le partage entre ceux qui peuvent pas, entre ce qu'on perçoit comme un cri, et ce qu'on perçoit comme une parole articulée, etc. C'est une autre façon, un art qui va phraser la vie autrement et qui va déplacer les frontières, les territoires, etc., etc. Et parfois, ça passe par des choses toutes simples aujourd'hui même. Il y a quelques jours, il y a eu un entretien, c'est-à-dire l'art féministe ou la façon de déplacer les identités, ça passe parfois par des choses toutes simples. Vous avez vu peut-être un entretien avec cette poétesse, justement, on en parle, une chanteuse, Christine and the Queens, qui est quand même aujourd'hui, qui a une notoriété internationale, et qui tout d'un coup, là, pour son deuxième album, a décidé d'avoir une coupe à la garçonne, de s'appeler Chris, de changer de nom. Elle s'appelle maintenant Chris. Et elle dit, ça veut pas dire que je ne suis plus une femme, ça veut dire que je veux émettre les signes d'une femme puissante et même, elle dit, d'une femme phallique et donc introduire un trouble dans le genre simplement en changeant d'apparence tout en maintenant son identité de femme. Ça passe par là, parfois, la culture dite.
Oui, alors le problème que j'ai peut-être avec cette représentation-là, c'est de savoir jusqu'où elle intègre finalement des référents pour se viriliser, jusqu'à quel point ça peut marquer une véritable nouvelle identité ou être faire partie aussi d'une certaine stratégie du scandale. Parce qu'on, pour venir jusqu'à Carmen, n'oublions pas quand même qu'à Carmen, on est beaucoup tombé sur le metteur en scène à juste titre, mais en fait c'est une commande du théâtre lui-même, du directeur du théâtre. C'est-à-dire, faut bien aussi replacer ça. C'est-à-dire que il y a un intérêt quelque part. On se dit bon, Carmen, opéra ultra connu, montré 100 fois. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour quand même remplir le théâtre, hein. Enfin, y a vraiment cette dimension presque économique derrière, quoi. Donc, je me méfie un petit peu. J'irai peut-être pas prendre cet exemple-là pour ces raisons-là, où je suis pas tout à fait sûr que ça fait pas partie quand même d'une forme de commercialisation de cette question-là. Maintenant, sur cette question rancérienne du dissensus, comment on introduit du dissensus dans le partage du sensible et comment l'art est là pour ça, pour amener des singularités qui vont nous bouleverser dans notre regard, dans nos certitudes, dans nos assises, qui vont toujours réinterroger ça et nous laisser libres après de former notre propre opinion. Il y a une autre philosophe que j'aimerais associer à Rancière, qui est Chantal Mouffe, qui a a très peu parlé sur l'art, mais quand elle écrit sur l'art, je trouvais qu'elle a fait plutôt bien, parce qu'elle s'interrogeait elle aussi, comme ancienne, sur cette question de art et politique, et est-ce que l'art a une mission politique, notamment celle de porter un message féministe, par exemple, là.
Et si vous aviez un exemple, alors, parce que Christine as the Queen, ça vous convainc pas, enfin,
je vais vous donner un exemple, voilà. Je vais y arriver. Et à ce moment-là, elle dit, mais finalement, un des enjeux de l'art, c'est certainement pas de faire la morale, hein, comme le dit Rancière, c'est certainement pas de dire qui sont les bons, qui sont les gentils, et c'est insupportable aujourd'hui dans l'art contemporain de voir des artistes qui sont sur cette ligne-là, ce ne sont pas des autorités morales qui peuvent le dire. Elle dit, par contre, l'art a une vocation, il peut, à un moment, créer un besoin, faire naître un besoin, montrer, faire prendre conscience d'un besoin. Et là, il y avait un exemple qui me plaît assez, c'est Pascal Lièvre, qui est un performeur, etc., qui avait, durant une petite performance à la FIAC, rebaptisé une place Monique Wittig, la place Monique Wittig, pour se rendre compte qu'il n'y a que moins de 5% en fait, des rues qui sont dédiées aux femmes en France, alors qu'on les utilise toujours sur nos enveloppes et nos codes postales. Bon, ben ça, je trouve que c'est une des vocations de l'art.
Merci Florian Guettet, Geneviève Fraisse, Fatou Diome et Jean-Pierre Le Goff d'avoir participé à cette deuxième journée des rencontres de Pétrarque. Je renvoie donc Fatou Diome, votre dernier ouvrage, Marianne porte-plainte chez Flammarion, Jean-Pierre Le Goff, La France d'hier, c'est chez Stock, Geneviève Fraisse, Le privilège de Simone de Beauvoir dans la collection Folio Essai chez Gallimard et Florian Guettet. On vous retrouve à la rentrée dans la dispute d'Arnaud Laporte, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Les arts plastiques, en général, c'est le mercredi. Voilà, merci à toute l'équipe du rectorat, à l'équipe technique, à Nathalie Salle qui a réalisé cette émission et à Chloé Leblon qui coordonne ces rencontres. Raphaël Bourgois, dans un quart d'heure, ce sera Du grain à moudre d'été sur France Culture.